Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David, on te retrouve tout à l'heure. C'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13, un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Alors aujourd'hui, on va parler de Makeo, le Fab Lab de Dax. Nous avons Blaise Ramu, Fab Manager, et Cassandra Casalis, chargée de communication dans notre studio. Bonjour tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va bien.
Ça va, merci.
Alors, on va passer une petite heure ensemble. On va découvrir votre structure, son lieu, son fonctionnement. On va d'abord écouter le Flash Info national, international. Et on se retrouve tout de suite pour la première partie de cette émission. C'est parti. Et voilà, c'est parti. La tradition oblige. On demande toujours aux invités, avant de commencer l'émission à proprement dit, de parler un petit peu de leur trajectoire. Une petite bio qui nous permet d'imaginer quel chemin ils ont parcouru jusqu'à venir aujourd'hui à ce micro. Est-ce que vous voulez bien vous prêter à cet exercice ?
D'accord. Donc, je vais commencer.
Alors, Blaise, allez.
Donc, je m'appelle Blaise. Je suis le responsable du Fab Lab. Donc, un Fab Lab, c'est un atelier de prototypage numérique ouvert au public. Donc, comment j'en suis arrivé là ? J'ai commencé à modéliser en 3 dimensions à partir de la seconde. Donc ça remonte à loin. Mm-hmm. Je faisais un bac sciences de l'ingénieur. Et donc on apprenait à modéliser sur SolidWorks.
SolidWorks, oui, le fameux.
Voilà. Le fameux, ouais. C'est en principe ce qu'on apprend dans les établissements en France.
Oui, en SI,
vu que c'est
ça,
français.
Oui.
Donc au lycée, j'ai appris à modéliser. Après, je me suis lancé dans des études à l'université de Grenoble en physique maths méca. Mm-hmm. Je suis parti 2 ans en Allemagne pour faire un double diplôme. J'ai eu l'occasion de faire un stage à Airbus et dans une plus petite entreprise. Et là, j'ai appris à modéliser sur Katia, qui est le grand frère de SolidWorks.
Qui est français aussi.
De la même entreprise, oui. Dassault Systèmes.
Oui, tout à fait.
Donc, en fait, finalement, c'est le même principe de fonctionnement. Après, j'ai poursuivi par un master en design à Saint-Étienne, où on a vu aussi d'autres logiciels de modélisation, donc Rhinocéros 3D, par exemple.
Ouais, des choses plus artistiques, on va dire.
Inventor, oui, ouais. Voilà. Et j'ai fini mon master par un stage au Fab Lab de Berlin. Un stage que j'ai prolongé. Après, finalement, je suis resté 1 an. Mmh. Et donc... ce qui m'a vachement facilité mon expérience, c'est que je savais modéliser.
Et oui.
Et donc, c'est la clé dans un Fab Lab pour pouvoir créer tout ce qu'on veut. Parce que une fois qu'on sait modéliser, on peut utiliser imprimante 3D, découpe laser, fraiseuse, découpe vinyle, voilà, tout ce qu'on veut. C'est un peu la base d'un projet, sa conception sur ordinateur. Donc là, j'ai découvert le logiciel Fusion, qui a été vraiment une super découverte.
Autodesk,
voilà. Mm-hmm. Et donc, l'avantage, c'est qu'il peut s'installer sur Mac ou sur Windows et qu'il est accessible gratuitement. Donc,
On peut l'avoir sur tablette, du coup, je crois, non ?
Après, je pense, sur tablette, c'est pour visualiser les projets,
ouais,
mais
pas
pour modéliser,
non,
pense,
pas trop
compliqué. Ouais.
Juste éditer, peut-être, ouais, d'accord.
Ouais, ouais, c'est juste pour montrer à un client, par exemple.
Oui.
Donc au Fab Lab de Berlin, je me suis aussi formé à l'utilisation des machines, à leur entretien, au fait de faire un atelier d'initiation à des nouveaux usagers, de faire des prestations. Voilà, des fois, je suis resté une nuit entière à faire de la découpe laser pour finir des prestations. Mmh. Des fois, ça m'est arrivé de déclencher l'alarme incendie en pleine nuit.
Oui, je comprends.
On fait des erreurs.
Ça
voilà.
Fume un peu des fois. Oui.
Ça, c'est dans l'ADN d'un Fab Lab, c'est d'apprendre en faisant des erreurs.
Oui,
apprendre
sûr,
en faisant et en faisant des erreurs. Suite à Berlin, je suis allé. J'ai vécu pratiquement 1 an au Québec, dont un hiver à Montréal. Et donc là, j'étais bénévole au Fab Lab de Montréal. J'y allais en vélo sous la neige.
Ouais.
Je me motivais.
Ah oui, motivé quand même. Hein.
Mais c'était une super expérience, donc c'était une autre expérience du Fab Lab, très proche de la fondation Fab Lab, parce qu'ils avaient la formation Fab Manager, ils étaient très connectés, de toute façon ils ne sont pas très loin géographiquement du berceau des Fab Labs de Boston, et donc là c'était très enrichissant aussi, et donc quand je suis rentré en France début 2019, 1 an avant le Covid, en cherchant un petit peu des offres d'emploi, soit dans l'ingénierie, soit dans le design, j'ai réalisé que mon profil était à la frontière entre les deux. Mmh. Et donc, il fallait que je continue, que je poursuive dans le domaine des Fab Labs. Et donc, c'est ce qui m'a amené à Dax.
Très bien.
Je vais de métropole en métropole.
Ouais, voilà. Ouais. Votre plus grand encore. Hein.
Voilà.
Ok, ben merci beaucoup. On va se tourner vers Cassandra. Alors Cassandra, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vous?
Alors moi, je suis du coup en charge de la communication actuellement de Pulseo, mm-hmm. et donc indirectement du Fab Lab Mekeo aux côtés de Blaise. Je suis revenue dans les Landes il y a 3 ans maintenant. Donc j'étais quand même originaire des Landes, mais mm-hmm. je suis partie pendant quelques années sur Toulouse. Commencé ma carrière. Mmh. J'ai travaillé notamment dans le consulting, d'abord dans l'aéronautique, pendant plus de 4 ans, et avant d'avoir envie de revenir par ici. Je suis revenue, j'ai monté mon projet entrepreneurial pendant 2 ans et demi, mmh. Dans lequel je me suis éclatée, mais j'ai eu un peu ce besoin de retrouver du lien, du tissu humain, et,
oui, bien sûr.
Et voilà, de retrouver un peu une énergie mm-hmm. plus collective. Et donc j'ai eu la chance de trouver un poste chez Pulseo, qui en plus faisait le lien plutôt bien avec mon expérience d'accompagnement en consulting, mm-hmm. mais aussi via l'expérience entrepreneuriale dans laquelle je m'étais lancée juste avant.
D'accord.
Donc voilà, ravie d'être là aujourd'hui.
Eh bien, bienvenue. Mais voilà, on a découvert nos invités. Alors, on va parler d'un Fab Lab. Alors, on va essayer, hein, comme je disais hors antenne, moi c'est un petit peu toujours là, j'allais dire... Voilà, le passage obligé, c'est réexpliquer aux gens ce que c'est exactement, parce que il y a certaines personnes qui n'ont jamais entendu le nom, il y a des personnes qui l'ont entendu, mais ne savent pas vraiment ce que c'est. Voilà, et donc c'est vrai que c'est bien un petit peu de resituer. Alors, il y a une historique à ça, hein, donc c'est un gars un jour qui n'était pas un rigolo non plus, hein, mm-hmm. qui a eu cette idée un petit peu de créer cette chose. C'était Neil Gershenfeld, hein, il travaillait au professeur au MIT, donc il y a peu d'universités qui sont aussi prestigieuses que le MIT quand même dans le monde. À fin des années 90, hein, donc il est parti vraiment sur un élan, ça aurait pu être fait dans les années 70 presque, à la limite, dans l'esprit un peu hippie, new wave qu'il y a pu avoir à une époque, new age, hein, ça peut faire penser à ça. Alors un Fab Lab, qu'est-ce que c'est? Alors là, c'est la question vache, mais je suis sûr que vous avez une réponse passionnante.
Oui, et puis chacun va avoir sa conception d'un Fab Lab. Mm. Un Fab Lab, donc, ça vient de l'anglais, ça veut dire un laboratoire de fabrication. Mm. Donc c'est un espace qui doit être ouvert au public, ça c'est une des conditions pour être un Fab Lab, mmh. et donc qui met à disposition des machines de fabrication, donc c'est des machines pilotées numériquement, mmh. Notamment on y retrouve des imprimantes 3D, des découpeuses laser, des fraiseuses à commande numérique, mmh. et donc l'idée d'un Fab Lab, c'est de mettre à disposition ces équipements, mmh. de former les utilisateurs à leur... à leur utilisation,
oui.
pour leur donner les moyens de fabriquer leur propre projet. Mm. Donc c'est les antres du do it yourself,
c'est
des espaces qui ont démocratisé le fait de faire soi-même des bricolages.
Oui.
Voilà, donc on peut aussi s'y former pour programmer des petites cartes programmables, des contrôleurs comme Arduino, et faire de A à Z un projet.
Mmh. Voilà, et donc puis un Fab Lab, alors c'est pas, on dit c'est ouvert au public, mais c'est un lieu par définition ouvert, hein, dans le sens où il y a des gens qui ils viennent y acquérir des compétences, aussi bénéficier de prestations, c'est-à-dire pouvoir utiliser du matériel qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Hein, donc voilà, ça fait partie des prestations que fait un Fab Lab. C'est un petit peu un mi-chemin. Hein. Alors vous avez un statut spécial, vous n'êtes pas une association, vous faites partie du Pulseo, mais l'esprit est le même. Hein, donc c'est quelque chose qui souvent, on va dire, à mi-chemin entre l'association et l'entreprise, un peu, un Fab Lab, c'est une entreprise un peu, une entité un peu hybride, on va dire. On y amène aussi des choses, hein. C'est un peu une auberge espagnole aussi, on ne vient pas juste prendre, on vient donner aussi, ça c'est important, parce que la transmission fait partie un petit peu de l'esprit des Fab Labs, hein. C'est-à-dire, il y a cet esprit un peu communautaire, on va en parler, hein, par notamment des choses que vous organisez avec le grand public, on va dire, même si vous avez pas mal d'interlocuteurs qui sont des professionnels ou des artisans, vous voyez, d'ailleurs, qui est-ce qui vient chez vous?
Donc on se veut tout public. Ceux qui viennent, c'est ceux qui ont l'envie de fabriquer ou qui ont des demandes spécifiques qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Alors on accueille donc des familles avec des jeunes pour des initiations de bricolage, par exemple pour venir graver un opinel pour Noël, faire un nichoir à oiseaux, faire un cadeau pour la fête des mères, fête des pères. On a des artisans, on a une créatrice de bijoux, de boucles d'oreilles, on a un créateur d'enceintes, IFI, de salon. Voilà, nous avons des bénévoles qui viennent, des retraités qui viennent contribuer, partager leur savoir-faire sur notamment par exemple de la réparation ou du bricolage. Voilà, nous accueillons aussi beaucoup de stagiaires de l'éducation nationale, donc des bacs pro, parfois des troisièmes, même si on ne peut pas accueillir tous les stages courts.
Ben oui.
On a des personnes qui se reconvertissent aussi, des adultes qui sont en reconversion. Et donc, mine de rien, le concept de Fab Lab se répand, devient de plus en plus populaire. Et donc, il y a désormais des formations de 6 mois, 1 an pour devenir responsable d'espace de médiation numérique, comme on dit. Il y a aussi des entreprises qui viennent nous voir pour venir soit reproduire des pièces, soit venir... Nous faire des petites séries. Donc, c'est du prototypage, soit on fait parfois des petites séries de 40 pièces. Voilà.
Des entreprises externes et internes aussi. Parce que c'est vrai que du coup, comme c'est au sein de la pépinière, on a de plus en plus les hébergés qui nous identifient et qui peuvent descendre aussi, réaliser leur
On va faire déjà une première pause. On va écouter un petit peu de musique. Et on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Et voilà, c'est reparti après un petit clash. Je parle pas d'une dispute, je parle d'une musique, bien sûr. Alors, on va parler aussi un petit peu là de... Tant qu'on y pense, la spécificité de Mekeo, puisque donc c'est, on parle de Pulseo, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de Fab Labs qui sont purement associatifs. Alors il y en a à Pau, il y a Sud-Souston qu'on a déjà reçu, qu'on connaît un petit peu et tout. Vous avez quand même une spécificité, c'est que vous faites partie d'un écosystème, on va dire, si ça vous convient ce terme, pour nous parler un petit peu de Pulseo même.
Oui, parce qu'effectivement, c'est bien ça, on appelle ça un écosystème, dans le sens où on a une multitude d'activités et d'acteurs qui se croisent dans ce lieu. On est avant tout une pépinière d'entreprise, c'est-à-dire qu'on a des bureaux qu'on loue à des entreprises qui sont plutôt en phase de lancement et qui vont avoir des bureaux, du coup, à tarif plutôt préférentiel. On est aussi un centre d'affaires, donc on va aussi avoir une offre locative pour des entreprises qui sont un peu plus établies. Et puis, on est aussi un centre de formation. On va dispenser de formation pour les dirigeants d'entreprise, mais aussi pour des entrepreneurs, des porteurs de projets qui ont besoin de formation un peu plus courte, un peu plus sur mesure. Donc, on est capable de proposer des formations à façon sur l'intelligence artificielle, sur différents logiciels techniques liés parfois même au Fab Lab, sur le marketing digital. Voilà, il y a un panel de formation qui est assez... assez dense. On est aussi un lieu événementiel parce qu'on organise plein de choses. On organise des temps des ateliers, des temps de formation ouvertes à tous avec des intervenants plutôt locaux. On loue aussi des salles de réunion et on abrite aussi donc, ce fameux Fab Lab.
Oui, voilà. Alors, c'est un petit peu la philosophie et les activités s'interpénètrent avec la philosophie d'un Fab Lab. Ce sera l'endroit idéal pour une petite, entre guillemets, start-up qui aurait besoin plus des services techniques d'un Fab Lab et sous le coude, ce serait l'endroit idéal en fait pour se domicilier en fait, évidemment.
Complètement, parce que les personnes qui sont hébergées chez nous ont finalement juste à descendre d'un étage pour se retrouver au milieu du Fab Lab et avoir une possibilité immense de pouvoir développer, prototyper leurs idées, leurs projets, les faire prendre vie en fait. Donc c'est un petit plus aussi pour les personnes qu'on héberge.
Alors on va parler un petit peu technique parce qu'on a employé des termes. Encore une fois, il faut essayer de redéfinir les choses pour les auditeurs qui ne connaissent pas, parce qu'on est là pour eux après tout. Donc c'est vrai que On parle beaucoup d'impression 3D, hein, donc alors je crois que maintenant les gens qui n'en ont pas ou qui n'ont pas vu directement, ont peut-être vu sur internet des vidéos, etc. Le principe un petit peu de dépose un petit fil de matière qui se solidifie très rapidement, parce qu'on a même vu sur internet des maisons, hein, des murs en béton, ça s'utilise même en pâtisserie en fait, hein, l'impression 3D. Le système en fait n'est pas très compliqué, c'est une tête qui se promène, un petit peu comme on avait des traceurs avant, hein, quand on utilisait table traçante avec des feutres, hein, ça existe encore, hein, chez cabinet d'archi ou voilà, de design. Et voilà donc le principe. Mais ça s'est beaucoup démocratisé quand même. On en a parlé hors antenne. On peut acheter pour 200 euros, on peut avoir une imprimante 3D potable à la maison, éventuellement.
Ah oui, tout à fait. En fait, le brevet de l'imprimante 3D à dépôt de fil tombe dans le domaine public en 2009. Donc c'est pas si vieux finalement, mais depuis 15 ans, les progrès des imprimantes 3D tout public se sont considérablement améliorés. Oui. Les performances, la fiabilité, il y a eu des innovations et donc les tarifs, notamment aussi avec l'innovation qui viennent les marques chinoises, hein, on ne va pas se cacher, mais ils ont réussi à casser les tarifs, à dynamiser le marché et avoir une concurrence féroce. Et donc, les machines qui, avant 2019, n'étaient pas accessibles à moins de 50 000 euros.
Voilà.
Maintenant, l'équivalent, on les a pour 500 euros. Là, les entrées de gamme, ça peut être 150 euros. Ouais. C'est des machines qui sont effectivement fiables, qui sont devenues rapides. On avait au début un petit peu
très très lent, hein,
cette contrainte que l'impression 3D prenait du temps, il pouvait y avoir quelques galères, la pièce qui se détache, la buse qui se bouge.
Plein de réglages à faire, oui, c'est vrai.
Voilà, fallait être un petit peu précis au début. Et ben, désormais, les imprimantes sont vachement plus autonomes. Ouais. C'est presque du plug and play. Il reste quand même quelques paramètres. Après, c'est comme toutes les techniques. Il y a une utilisation en surface qui va être très accessible. Et puis après, on peut se pencher sur les détails et des fois quand on voit des vidéos de youtubeurs qui rentrent dans des explications de paramètres, ça peut aller très très loin en technique.
Oui, puis il y a une grosse communauté du coup, parce que ça s'est démocratisé, ça existe depuis un moment, donc sur internet il y a vraiment des millions de vidéos, de tutos.
Il y a des vidéos, des tutos, des explications, il y a aussi des logiciels qui se développent, des logiciels libres, et surtout il y a des plateformes entières où on trouve des modèles 3D tout gratuit ou payant. Quelques euros, on peut acheter un modèle 3D qui a pu prendre des journées à être modélisé.
Oui.
Donc, il y a éventuellement pas forcément besoin de savoir modéliser pour commencer à imprimer en 3D.
C'est vrai.
Mais après, moi, je trouve qu'on tombe vite dans le biais de la consommation sans limite. Et donc, parce que si c'est juste pour aller chercher un modèle 3D sur internet et l'imprimer.
Oui.
Donc ce qui est quand même intéressant, c'est de savoir modéliser par soi-même.
Oui, bien sûr, faire du sur mesure, hein. Parce que voilà,
en fonction de son propre besoin.
On peut réparer des objets, on peut en créer. Voilà, il y a beaucoup beaucoup d'applications de l'impression 3D. Hein. On parle d'impression 3D parce que c'est ce qui est un peu plus connu du public. Mais voilà, bien entendu, il y a d'autres procédés qui sont utilisés dans le Fab Lab. On va en parler après. Parce qu'on va encore faire une deuxième petite pause. On va écouter un petit peu de musique, le Flash Info local, et on se retrouve ensuite pour une troisième partie de cette émission, à tout de suite. Nous voilà de retour. Alors, c'était Wind of Changes de Scorpion. Alors, c'est pas un choix innocent parce que, voilà, moi, quand on a vu le mur de Berlin s'écrouler, hein, entre l'Est et l'Ouest, c'était un moment de libération, d'espoir et de joie. Et en fait, ce qui se passe en ce moment, il faudrait qu'on se rappelle quand même un petit peu ce que c'est d'avoir un mur entre les gens. Voilà, c'était ma petite observation personnelle. on va parler aussi du côté un peu grand public, hein, puisqu'on a bien compris, on a parlé un petit peu des artisans, des entreprises qui veulent être intéressés par des services, on va dire, assez techniques. Mais vous avez aussi des activités qui concernent le public, notamment les Repair Café. Ça, c'est chouette. Parlons-en un petit peu.
Oui, effectivement. Donc, Repair Café, c'est de l'anglais réparer. Je précise parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait toujours le lien. Donc, le Repair Café, c'est une après-midi, deux fois par mois, donc un mercredi sur deux, de 14h à 18h. Il peut y avoir les dates sur le site Repair Café ou sur Facebook. Et donc, on propose à tout le monde de ramener un petit électroménager, un appareil petit électroménager, en panne, et avec des bénévoles, des bénévoles bricoleurs qui savent bien bricoler, on répare les appareils. Donc ça peut être des aspirateurs, des machines à café, des grille-pains, on a fait beaucoup de centrales vapeur dernièrement.
Oui.
Voilà, la règle, c'est en fait un appareil qu'on peut porter à une seule personne pour éviter les sèches-linges, les machines à laver.
Le frigo, ça, c'est pas la peine.
Voilà, et c'est aussi d'autres compétences. Nous, ce qu'on fait, c'est quand même des petites réparations. En principe, il suffit de peu pour remettre un appareil en fonctionnement, changer un câble, changer un composant, peut-être un condensateur.
Des fois, ça peut être un fusible même.
Souvent. Ouais, fois, c'est juste le câble qui va dans la prise.
Oui.
Donc ça, on aime bien parce que c'est assez simple. Puis des fois, c'est assez technique. Donc on en voit un petit peu de tout, mais on y arrive assez bien. Voilà, on fait ça dans une bonne, avec une bonne ambiance. Et donc en plus, pour vraiment faciliter le principe et permettre à tout le monde d'en bénéficier, on n'impose pas d'être présent pendant la réparation. Soit le bénéficiaire nous apporte l'appareil avant la date du Repair Café, soit elle vient pendant le Repair Café. En principe, c'est bien de nous prévenir à l'avance. Voilà, on peut pas faire mieux.
Oui. Les gens participent aussi eux-mêmes des fois à la réparation de leur appareil. Hein,
mais en fait, on a constaté qu'il n'y a pas tout le monde qui est intéressé. Donc déjà, une partie de la réparation, c'est d'ouvrir l'appareil. Il faut pouvoir l'ouvrir sans le casser et sans se blesser, parce que des fois, c'est quand même bien clipsé. Après, on fait quand même des tests avec... on branche les appareils ouverts, donc avec du 230 volts dedans.
Il faut faire gaffe aux trabilités même, d'ailleurs, je dirais, techniquement.
Oui,
également.
Ouais. Donc, y a un petit peu des risques. Et puis après, il y a des risques aussi sur... on peut... C'est possible que des fois, en essayant de réparer, on empire la problématique.
Ah oui, ça c'est vrai.
Donc, arrive à tout le monde. Les personnes qui sont intéressées de réparer, en principe, elles nous le font savoir et elles sont ravies de participer avec nous. Voilà. Une autre façon qu'on a de réparer, c'est en utilisant l'impression 3D.
Oui.
Y a beaucoup de gens qui nous amènent une pièce cassée qui ne se retrouve plus dans le commerce, parce qu'il y a plein de pièces de rechange qui sont pas maintenues par les fabricants.
Oui.
Et donc, nous, on fait le modèle, soit avec un stagiaire qui sait modéliser, soit moi-même, je redessine la pièce, soit cassée ou intacte.
SolidWorks, avec quoi vous travaillez d'ailleurs ?
Avec Fusion.
Fusion,
ouais,
toujours
Fusion. Ouais, parce que Fusion, donc le fait qu'on soit un Fab Lab, on a accès à un certain nombre de licences Fusion gratuites.
Oui, parce que ça peut être pas donné. Les logiciels de conception 3D,
on n'a pas les moyens pour un SolidWorks.
Katia, je sais pas combien ça coûte, mais ça coûte une fortune, Katia.
C'est 10 000 euros l'année.
Oui, voilà. Donc, c'est pas pour le particulier.
10 000 euros l'année pour finalement faire des pièces qu'on vend, 20 balles.
C'est sûr.
On n'est pas en train de faire un Airbus.
Non,
Fusion est très bien. Et en fait, dans un Fab Lab, on a besoin de logiciels qui sont accessibles au grand public. Donc, dans la majorité, dans la majorité des cas, c'est des logiciels gratuits, dans l'idéal open source, où Fusion, il n'est pas open source, on a moyen de l'avoir gratuitement, et en fait, il est très simple d'utilisation.
Ouais, très bien. Alors, c'est vrai, on a parlé beaucoup d'impression 3D, ça permet aussi de créer des objets, des formes, etc. Mais vous avez aussi la graveuse découpeuse laser, parce qu'en fait, c'est la même chose, c'est juste la puissance du laser qui fait qu'on coupe ou seulement qu'on grave, ou c'est des appareils bien différents?
C'est effectivement la même machine, mais elle peut avoir deux mouvements différents, un mouvement de découpe ou un mouvement de gravure.
Oui.
Donc la découpe, elle suit un contour avec une puissance suffisamment élevée pour passer à travers la planche. Et sinon, la gravure, elle balaye point par point une surface, un dessin, une image.
Oui.
Donc là, on a une machine qui est quand même assez intéressante. L'avantage d'un Fab Lab, c'est d'avoir accès à des machines qui ne sont pas accessibles au grand public. Donc là, notre dernière, on l'a depuis 2-3 ans, elle fait 1m30 de large par 90 cm de profondeur.
Oui.
Et on peut découper jusqu'à 1 cm de contreplaqué en une passe.
D'accord.
1 cm d'épaisseur.
Ah oui, c'est pas mal déjà.
Donc c'est intéressant. Ah oui. C'est pas une machine qu'un particulier pourrait s'installer dans son garage, à part si c'est un particulier qui a beaucoup de moyens.
Alors, on parlait tout à l'heure d'artisans. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui font des bijoux. Hein. C'est vrai qu'avec la découpe laser, on en voit d'ailleurs, on les reconnaît souvent à l'œil quand on a l'habitude de reconnaître des bijoux qui sont, alors c'est des petites plaques de matière, ça doit dépendre. Voilà, je ne sais pas si avec le métal, ce que vous avez, vous pouvez forer, couper du métal d'une certaine épaisseur. Non. Il faut vraiment un truc spécial là, pour le métal.
On a une fraiseuse après.
Oui, voilà, une machine pour découper
éventuellement du métal. Après, oui, de toute façon, je pense pas que ça soit adapté pour faire des bijoux en métal, ce type de machine, parce que ça prendrait beaucoup de temps. Ouais.
Ça marche sur le verre aussi. Est-ce qu'on peut découper ou graver du verre ?
On peut graver du verre.
Graver du verre.
Après, pour le découper, ça c'est une autre technique. Ouais. Mais on peut graver du verre. On travaille un peu dessus. On peut graver un tas de matériaux. On peut graver du verre, de la pierre, du carrelage. On peut graver des tissus, du cuir. Voilà. Ouais. Il y a plein de matériaux qui sont utilisables en laser.
Très bien. Oui, alors on en a parlé un petit peu en antenne. Alors on peut aussi faire vraiment un projet de A à Z, c'est-à-dire on imagine quelque chose, on le modélise, les parties en 3D dont on a besoin pour faire, par exemple, un boîtier. On peut faire la partie électronique avec un Arduino, on met des boutons, on fait des soudures, etc., etc. Et à la fin, on peut se retrouver à partir d'un concept, d'une idée, un vrai objet fonctionnel devant soi, après tout un processus de conception et de fabrication, comme dans une usine avec un bureau d'ingénieurs, etc. C'est ça qui est super, c'est que ça démocratise ce procédé-là.
Oui, voilà, oui. Après, ça, tout projet nécessite le temps de le concevoir et de se former. Donc oui, en fait, dans un Fab Lab, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre brique par brique chaque technique, de commencer à apprendre à modéliser, et aussi grâce aux ressources qu'on trouve sur Internet, aux explications, aux tutos, on peut facilement reproduire un projet déjà existant et l'adapter, le personnaliser. À sa sauce.
C'est ça. Et on va faire déjà notre dernière pause. On va écouter un petit peu de musique. On arrivera à la conclusion. On parlera un petit peu des projets et de l'actualité. Tiens, voilà, quand est-ce qu'on va pouvoir faire à vous, découvrir concrètement ce que vous faites. On se retrouve tout de suite après ça. Et nous voilà arrivés à la dernière partie de cette émission. Alors, on va devoir un petit peu parler d'actualité, de projet. On va regarder un peu vers l'avenir. Alors, au niveau actualité, il y a plein de choses, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Parlons-en, si vous voulez bien.
Oui, donc les prochaines dates à venir, c'est le prochain Repair Café, c'est mercredi de la semaine prochaine, de 14h à 18h. Donc si vous avez un appareil à réparer, soit vous nous l'amenez avant, soit vous pointez mercredi prochain. Ensuite, vendredi prochain, le 30 de midi à 12h30, donc on organise ça chaque dernier vendredi du mois. C'est une porte ouverte du Fab Labs, donc c'est une visite pour venir découvrir le lieu, venir me rencontrer, voir les machines qu'on a, voir l'espace et comprendre le fonctionnement.
Oui, les gens vont être curieux, ceux qui nous ont entendu parler vont dire, bon, mais là, ceux qui ne connaissent pas, à quoi ça ressemble?
Pour ceux qui se posent la question un petit peu qu'est-ce que c'est l'impression 3D, qui aimeraient venir personnaliser, venir graver au laser un objet, venir faire soi-même, venir réparer quelque chose, donc nous sommes ouverts, nous sommes disponibles. Et enfin, aussi pour la Saint-Valentin, nous proposons en partenariat avec la Cave d'Ourt de venir. C'est un cadeau de Saint-Valentin. C'est une bouteille de crémant et deux flûtes à champagne.
D'accord.
Deux flûtes à crémant. Et donc, nous, on propose de graver les flûtes au laser.
Soit
de venir graver un prénom, de graver une image ou une demande en mariage, une date, voilà. Et donc,
d'accord.
Donc c'est pour 30 euros, il y a une bouteille de crémant et deux flûtes à graver au Fab Lab.
Ah ouais, d'accord, tiens, c'est marrant, c'est une bonne idée ça, pour l'occasion, oui, c'est vrai que...
Voilà, on essaie de proposer des petits ateliers pendant les vacances de février aussi, ça va approcher. Il me semble qu'il y avait un atelier en famille... qu'on a dû proposer, c'est peut-être un atelier nichoir.
On va en parler, oui.
Sur le mois, oui.
Oui, pour faire les nichoirs, oui, c'est vrai que ça se fait pas mal, ça.
Ou c'est peut-être plus tard que ça va venir. Alors, on propose des activités à venir faire.
Vous avez des liens aussi avec d'autres partenaires, alors, par exemple, public, ou, par exemple, à l'Éducation nationale, ou peut-être Erasmus, parce que déjà, vous avez une trajectoire personnelle qui est pas mal, Erasmus, avec l'Allemagne et tout ça. Nous, on est partenaire avec WIPSI, à la maison de l'Europe des Landes. Donc, d'ailleurs, ce week-end, on a encore nos podcasts qui passeront samedi midi et dimanche midi. Vous avez peut-être des partenariats aussi avec eux, parce que ça fait partie aussi de la philosophie.
Oui, en fait, là, on a été contacté par le collège Daniel Mitterrand, par une professeure, et donc ils accueillent une classe d'allemand d'ailleurs, justement, pendant une semaine.
Oui.
Et donc ils cherchent à chaque fois des activités à faire ensemble. Et donc là, ils vont venir une matinée faire un atelier fabrication de nichoirs, justement.
D'accord.
Et une nouveauté aussi depuis les dernières, c'est qu'on a obtenu l'agrément pour pouvoir accueillir des passes culture. Donc, soit on accueille des établissements scolaires.
D'accord.
Donc là, on négocie ça avec des lycées, des collèges. Mais aussi, là, je viens de publier une offre individuelle. Donc, ça veut dire qu'un collège... maintenant, c'est 17-18 ans, les passes culture individuelles. Donc, un jeune qui a un budget passe culture, il peut venir au Fab Lab pour faire une initiation à la découpe laser, découpe et gravure laser.
Ouais. Ça, je pense, ça va intéresser pas mal de jeunes. Hein.
Bah, on va voir. On lance ça.
D'accord. Et en termes de projets, alors des projections un petit peu vers l'avenir, est-ce que vous avez est-ce qu'il y a des projets dans le tiroir de je sais pas, de développement d'une manière ou d'une autre, ou d'acquisition de nouvelles machines, hein, parce que voilà.
Il n'y a pas de projet d'acquisition de nouvelles machines. Moi, j'aimerais bien à un moment donné qu'on ait une grosse fraiseuse, mais bon, c'est pas encore à l'ordre du jour. C'est aussi bien de se contenter du peu de machines qu'on a et de faire avec, parce que des fois il y a des Fab Labs qui font beaucoup d'investissements, mais en fait après il faut pouvoir rentabiliser. Il y a un partenariat qui s'initie avec l'association Musique à la rue, qui organise le festival à Luxeuil.
Et
donc
bien,
va travailler sur comment réutiliser leurs matériaux de communication, notamment par exemple les panneaux, les panneaux où ils impriment dessus les programmes du festival. C'est des panneaux plastifiés.
D'accord.
Voilà, et donc on a déjà commencé des tests. Pour voir comment en produire peut-être de la signalétique pour indiquer éventuellement les sanitaires sur la prochaine édition.
D'accord.
Le parking, les points de tri. Et puis peut-être aussi voir comment fabriquer des objets. C'est un matériau c'est comme du carton, mais en plastique.
D'accord. Voilà. Alors, moi, pour la fête de la musique, vous voudrez faire une presta un petit peu comme pour la Saint-Valentin avec des instruments de musique. Hein. Moi, j'ai déjà imprimé une ocarina en 3D. C'est nickel.
D'accord, ouais.
C'est pas très gros, c'est rapide. Et puis, c'est facile à utiliser, c'est portable et c'est sympa. Voilà. Eh bien, voilà, nous voilà arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Blaise et Cassandra, d'être venus nous parler de cet endroit. Hein, un endroit qui n'est pas loin, hein, juste à côté de la gare. J'espère que les gens vont venir pour les portes ouvertes et découvrir le lieu, le bâtiment, un beau bâtiment. Et ce Fab Lab et tous ces drôles d'engins qu'ils ne connaissent pas forcément. Voilà. Merci beaucoup d'être venus. Merci.
Avec plaisir. Bonne journée.
Au revoir.